Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi, nous sommes le 28 mars. La réouverture aujourd'hui du Tata Sénégalais à Chasselet. La disparition du Réseau National de Surveillance Aérobiologique, le RNSA, est placée en liquidation judiciaire. Une opération de carottage au sud de Lyon pour prélever des sédiments contaminés par les perfluorés. Dans ce quart d'heure lyonnais, également l'initiative d'un entrepreneur passionné de vélo pour dire stop à la sclérose en plaques. Son projet STEP vise à sensibiliser à la maladie et à accélérer la recherche. Pierre-Martin Aubel est notre invité. La protection civile tient son 29e congrès et fête ses 60 ans à Lyon ce week-end. Et puis en football, Strasbourg-OL ce soir à 20h45.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 28 janvier dernier, des actes de vandalisme étaient découverts dans l'enceinte du Tata Sénégalais de Chasselet. La nécropole nationale était fermée au public depuis. Des dizaines de plaques funéraires avaient été dégradées, le drapeau français arraché et des inscriptions insultantes avaient recouvert les murs de l'enceinte. Ce vendredi, l'heure est à la réouverture, avec une cérémonie présidée par Patricia Mirales, qui n'est autre que la ministre en charge de la mémoire et des anciens combattants. Le Tata Sénégalais de Chasselet rend hommage, je vous le rappelle, aux 196 tireurs sénégalais tombés en juin 40 face aux troupes allemandes. Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique, le RNSA, basé à Brussieux et qui publiait un indice pollinique chaque semaine, eh bien le RNSA a été placé, comme prévu, en liquidation judiciaire. L'association avait perdu 600 000 euros de subventions des ministères de la Santé et de la Transition écologique après un rapport accablant de l'IGAS qui dénonçait des défaillances de gestion. Un nouvel indice pollen national réalisé par Atmo France doit être lancé le 2 avril, donc dès la semaine prochaine, avant un déploiement progressif dans chaque région. Une opération de carottage a eu lieu hier au stade Brotillon, à Oullins-Pierre-Bénite, un site choisi en raison de sa proximité avec l'usine Arkema. L'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer a prélevé des sédiments contaminés par des PFAS. Ces prélèvements s'inscrivent dans le cadre d'une étude plus large menée par la métropole visant à évaluer l'imprégnation des populations exposées à ces polluants. L'objectif est de comprendre comment les PFAS se répartissent dans le sol et contaminent les nappes phréatiques. L'Institut cherche à déterminer quels PFAS présents en surface ont migré vers la nappe phréatique. Les résultats permettront de cartographier la répartition de ces polluants et d'identifier d'éventuelles zones d'accumulation. Des tubes ont été insérés dans le sol jusqu'à 5 mètres de profondeur pour recueillir les sédiments qui seront ensuite analysés en laboratoire. Ces analyses viendront compléter les données issues des prélèvements sanguins réalisés sur 300 habitants de la vallée de la Chimie. L'objectif, croiser les informations pour obtenir une vision globale de la contamination. Les premiers résultats sont attendus pour l'automne prochain.
Lyon Demain, écoutez ma différence.
Bonjour Pierre-Martin Aubel.
Bonjour Gérald.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Vous avez plusieurs facettes dans votre vie.
Alors effectivement, j'ai une vie, j'ai pas une double vie, j'ai une triple vie. Je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années en dirigeant une boîte de formation Les Clés de l'Atelier, entreprise de formation auprès des publics fragiles. Dans le bâtiment. Deuxième vie, c'est une vie de cycliste assez intensif puisque je fais du vélo, je fais à peu près 15 000 km par an. Autrement dit, je fais plus de vélo que de voiture, nettement plus, et c'est une passion H24. Et le troisième vie, c'est que j'ai la sclérose en plaques depuis quelques années maintenant, et je vis avec, mais je dois la faire coexister avec mes deux autres vies.
Alors effectivement, ce troisième volet est un petit peu moins enthousiasmant que les deux premiers. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que la sclérose en plaques ?
Bien sûr, la sclérose en plaques, c'est une maladie déjà qui est très fréquente, puisqu'elle touche une personne sur 500 en France, hein, c'est 130 000 personnes en France, en majorité des femmes diagnostiquées entre 25 et 35, même s'il y a des exceptions, j'en suis la preuve. Et c'est une maladie, ce qu'on appelle une maladie neurodégénérative. Neuro, ça veut dire que c'est une maladie neurologique, dans le sens où c'est la gaine de myéline qui protège les nerfs qui est altérée, donc qui fait dysfonctionner le système nerveux, et donc provoque des troubles, parce que, en fait, l'influx nerveux ne passe plus, ou mal, donc ça provoque des troubles liés à ça. Et par ailleurs, c'est dégénératif dans le sens où c'est une maladie évolutive. On ne guérit pas de la SLAP. C'est une maladie, on apprend à vivre avec, on a des traitements qui visent à espacer les crises, mais c'est une maladie qui nous emmène on va dire, dans une vie de plus en plus compliquée.
Quels sont les symptômes ? Est-ce que les gens savent quand ils sont atteints et comment ils le savent ?
C'est une maladie qui est assez compliquée à comprendre dans le sens où certains des symptômes sont complètement invisibles. monde peuvent effectivement ne pas se voir, on peut ne pas s'en rendre compte autour de soi. Pour autant, des symptômes, ils peuvent être très divers dans le sens où, comme ça touche les nerfs, le système nerveux central, hein, à la fois le cerveau et la moelle épinière, c'est possiblement beaucoup de symptômes. Alors, les symptômes très fréquents, ce seront de la fatigue, une fatigue chronique importante, générale. Ce seront des problèmes de sensibilité au niveau des membres. Donc, on peut avoir des fourmillements, de l'hypersensibilité, des décharges électriques, des petites décharges, en fait, au niveau des membres, les mains, les pieds, enfin, ainsi de suite. Mais on peut aussi avoir des troubles moins simples encore, des troubles de l'équilibre, donc possiblement aussi des troubles de motricité, des troubles visuels, des troubles urinaires, des troubles sexuels. Bon, bref, beaucoup de troubles divers et variés. Alors, un malade de la SEP ne coche pas forcément toutes les cases, mais pour autant, de proche en proche, on peut y gagner par certains de ces symptômes.
Est-ce que détecter la maladie tôt facilite, je dirais, ensuite l'évolution, le traitement ?
Alors, oui, effectivement, plus la maladie est diagnostiquée tôt et mieux c'est, dans le sens où il y a des traitements qui existent pour faire en sorte d'espacer les crises, et donc ça permet d'agir au plus vite dès le début. Pour autant, c'est une maladie où il n'y a pas de thérapie de soins. En fait, on ne guérit pas. Et donc, même si on est diagnostiqué très tôt, bah, on va juste vivre avec et on va devoir adapter sa vie.
Où en est la recherche d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a des traitements ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe ou pas ?
Il y a beaucoup d'activités au niveau de la recherche sur le sujet, dans le sens où effectivement, c'est une maladie qui est quand même très fréquente dans le monde, hein, globalement. Donc, à la fois la recherche fondamentale et surtout la recherche des laboratoires aussi ont des intérêts à faire de la recherche. Donc, il y a beaucoup de pistes dans les différents grands labos, dont Sanofi, par exemple, qui est sur des pistes de traitement, mais à l'instant T, il n'y a pas de traitement avéré, même si c'est une maladie qui reste encore mal comprise. L'origine de cette maladie est très multiple, très polyfactorielle, et donc aujourd'hui, il y a une activité intense de recherche, mais en 2025, à l'instant T, on vit avec, quoi.
Alors, on a compris que c'est une maladie quand même invalidante. Vous avez un projet qui s'appelle Stop à la sclérose en plaques. Comment on peut dire stop à la sclérose en plaques alors qu'on ne connaît pas justement de traitement encore efficace ?
Alors, le projet Step, l'idée du projet Step, c'est de dire que quand on est un patient atteint de la SEP ou quand on est dans l'entourage d'une personne qui a la SEP, l'idée, c'est de laisser la maladie là où elle est, de vivre avec, mais pour autant de ne pas la laisser coloniser le patient. Et l'idée, c'est de dire qu'un patient, même si c'est compliqué, il peut vivre sans problème avec, il va adapter sa vie, il va trouver des moyens, il va trouver des relais, des ressources, il va se mobiliser différemment, mais il peut continuer à vivre. Donc l'idée, c'est de manière provocante de dire stop, mais bien sûr, on ne va pas l'arrêter comme ça, la maladie, malheureusement, mais en revanche, on va la laisser à sa place et elle ne va pas nous gagner au quotidien. Voilà, donc l'idée, c'est... de manière un peu interpellante, un peu provocante, ben, de dire que les patients, les aidants, les soignants, on peut être plus fort qu'elles. Et c'est important.
Comment vous allez agir ? Comment comptez agir avec ce projet STEP ?
Alors, le projet STEP, en fait, on a différents moyens d'action qui vont tous concourir, en fait, à sensibiliser à la maladie, qui vont viser à inspirer les patients, l'écosystème sur le fait de rester actif, de rester debout, de rester fort par rapport à la maladie, et enfin qui va viser aussi à collecter des dons. Et en termes de moyens d'action, on a plusieurs moyens qui sont très accessibles. Le premier qui est tout prochainement, qui est une table ronde, qui va se dérouler mardi prochain sur la thématique sport, activité physique et sclérose en plaques, visant à dire que le sport est un médicament, parce qu'aujourd'hui c'est connu, on le sait. Et donc l'idée, c'est un premier moyen de dire les choses et de diffuser l'information. La deuxième activité qu'on réalise toute l'année 25, ce sont des défis collectifs auprès de groupes, entreprises, associations, écoles, universités, pour à la fois sensibiliser et expliquer ce qu'est la maladie dans des termes simples, concrets, en mode témoignage, interpellant, hein, pour dire les choses. Et puis aussi une logique de faire des activités ensemble pour faire en sorte que ces groupes auxquels on aura déjà eu un temps d'échange, puisse aussi vivre une activité dans le monde du handicap. Et ça nous semblait important de partager concrètement une activité physique, que ce soit du vélo ou autre, hein, on peut faire autrement, mais en tout cas avec une logique d'immersion, d'expérience du handicap. Et troisième point, c'est moi, à titre perso, je vais faire un défi un peu grand, parce qu'en fait, je vais faire une sortie de 2500 km en cherchant à écrire en géant en fait les lettres du mot STEP en France. L'idée étant de faire un événement dont on parle pour qu'on puisse parler de la maladie, bien sûr. Enfin, le dernier point qu'on fait, c'est un documentaire qui sera produit fin 25 et qui sera un format 26 minutes pour de manière très humaine, en fait, décrire en fait ce chemin que peuvent faire les malades, les patients et leur écosystème en disant que on peut être bien plus fort que la maladie et qu'elle reste à sa place, pas plus.
En 2025, c'est important de justement d'être inspirant en ce qui concerne l'inclusion. L'inclusion en général, pas uniquement sur cette thématique de la sclérose en plaques, c'est un petit peu votre volonté, je crois.
Alors complètement. Vous savez, l'inclusion, c'est un sujet, alors on en parle beaucoup tout le temps et tant mieux, c'est bien. Pour autant, au quotidien, c'est une réalité qui est compliqué. En tout cas, quand on est dans le monde de la SLEP et d'autres maladies de ce type ou d'autres difficultés, on vit dans un monde qui est assez excluant, très excluant, à plein de niveaux. Alors, le malade lui-même, parfois, s'exclut en pensant que ça va pas être possible, mais avec une pathologie comme la SLEP, aujourd'hui, quand vous dites que vous avez des troubles de fatigue chronique, des douleurs relativement permanentes, des troubles d'équilibre, ben dans la vie au quotidien, c'est très compliqué, que ça soit dans l'environnement professionnel, bien sûr, où ça peut être compliqué et il peut y avoir nécessité de trouver des adaptations, ou en tout cas des aménagements légers ou moins légers. Mais j'ai envie de dire, l'inclusion, l'exclusion, elle se pratique aussi avec des maladies comme ça dans la vie tout court, dans le cercle social, dans les rencontres qu'on peut faire, dans la participation à des activités. En fait, les symptômes peuvent rattraper. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce type de maladie, par nature, on vit H24 avec cette maladie, on n'en guérit pas. Donc, il y a comme une spirale dans laquelle on est installé, qui peut s'installer insidieusement, qui nous contraint à ne pas aller vers les autres ou ne pas faire ci, ne pas faire ça. Et en fait, non, l'idée, c'est que il faut absolument que nous luttions. Nous, c'est à la fois les malades, mais aussi l'environnement, l'écosystème, les proches, les autres, en fait, et un regard qui change pour mieux inclure, en fait. Donc oui, c'est un sujet. Et en 2025, ça reste un sujet et pour de nombreuses années encore. Mais l'idée, c'est que moi, j'ai un message qui est très positif, c'est que c'est possible, en fait. C'est vraiment possible. Simplement, c'est une question de regard, une question de conviction, d'attention à l'autre, d'empathie pour que on puisse mieux vivre ensemble.
Comment on peut vous aider, Pierre-Martin Aubel, dans votre défi de cette année 2025?
Les façons d'aider le projet STEP, il y en a plusieurs et hyper simples. La première, c'est d'en parler autant que possible autour de vous, voilà, parce qu'il se passe plein de choses et l'enjeu, c'est vraiment de sensibiliser, d'inspirer. Donc, c'est plus on en parlera via les réseaux, via les réseaux perso, les apéros ou tout ce que vous voulez, ça sera bien. Le deuxième moyen possible, très simple, c'est de venir à la table ronde mardi prochain, où les inscriptions sont ouvertes, hein, et on a un bel amphi qui est mis à disposition dans l'ancien garage Citroën, sur le campus Omnes Éducation, dans le table ronde 18h-20h mardi prochain, où il y a des places disponibles. Troisième possibilité, c'est que ce soit dans votre entreprise, dans votre association, dans votre réseau, on peut créer des défis. Voilà, on peut créer des défis ensemble pour venir témoigner, venir inspirer, venir rencontrer des salariés ou autres, des adhérents, pour expliquer cette maladie, témoigner, dire les choses, et puis possiblement faire une activité ensemble. Enfin, le dernier point, et voilà, comme toujours, il faut possiblement donner de l'argent. On organise une grande collecte de dons. On a un objectif qui est un peu fou d'atteindre 100 000 euros, donc c'est énorme, mais on a lancé la campagne il y a un peu plus de 3 mois, on est à 46 000 euros. Donc l'enjeu, c'est d'atteindre ces 100 000 euros, parce que la recherche est fondamentale.
Merci beaucoup, Pierre-Martin Aubel. Il y a un site internet?
Pas de site, mais on est sur tous les réseaux sociaux. On a une page LinkedIn, Stop à la SLEP, une page Insta, une page Facebook et une page HelloAsso. Donc, il y en a pour tous les âges, tous les publics, sur tous les réseaux sociaux.
Merci beaucoup. Bon courage, en tout cas, pour vos 2500 merci. Kilomètres et donc beaucoup de succès également à votre défi.
Merci beaucoup, Gérald. À bientôt.
La protection civile tient son 29e congrès national à Lyon ce week-end, l'occasion de fêter aussi les 60 ans de l'association. Au programme de ces 3 jours, des stands, le village Protech, des tables rondes, des ateliers thématiques et une mise en lumière des innovations des associations de protection civile. Depuis sa création, la protection civile s'appuie sur 3 axes, l'aide, le secours et la formation. L'année 2024 a été riche en événements, notamment avec les Jeux Olympiques de Paris ou encore le cyclone à Mayotte. 2 jours après avoir remporté une formidable victoire face à l'Olympiakos dans une LDLC Arena en fusion, l'ASVEL a enchaîné contre Kaunas dans une Astrobal à guichet fermé. Les héros de la saison 96-97 qui avaient conduit le club au Final Four étaient aux premières loges hier soir pour une victoire finale 88-79 face aux Lituaniens. Football, alors en Ligue 1, Strasbourg-OL, déplacement difficile pour l'Olympique Lyonnais ce vendredi à 20h45, victime d'une contusion au genou en fin de match contre le Havre. Le jeune international belge Malik Fofana doit prendre un temps pour récupérer, il sera absent à Strasbourg, tout comme Sahel Koumbedi, qui est lui suspendu. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, je vous souhaite de passer un excellent week-end et on se retrouve bien sûr lundi pour la prochaine édition.